Bonjour, bienvenue à Sans détour avec Élisabeth Pellerin, votre nouvelle animatrice pour 2025. Cette semaine d'émission, on reçoit Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique, qui va nous parler entre autres d'avancées dans le traitement du cancer du poumon. On va s'entretenir également avec Jean Roy, qui est réalisateur de la série Nos champions paralympiques, que nous aurons bientôt le plaisir de voir sur MTV. On va aussi parler avec Anne-Louise Fournier, coordonnatrice du Centre d'aide aux étudiants en situation de handicap de l'Université Laval, qui met en place des services visant à pallier les limitations fonctionnelles et à favoriser la réussite des études des étudiants en situation de handicap. Pour commencer cette année, on rejoint notre vulgarisateur scientifique, Philippe Ducharme. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Élisabeth. Comment vas-tu?
Ça va bien, et vous?
Très, très bien. Je te remercie. Alors, ça fait bien plaisir de poursuivre avec toi les chroniques de bonnes nouvelles scientifiques.
Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aussi cette année. Donc, vous commencez en nous parlant d'un traitement à base d'ARN pour lutter contre le cancer du poumon.
Tout à fait. Alors, l'ARN messager, hein, dans le fond, on entend parler depuis la pandémie. Hein, c'est un terme qui est devenu très familier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN messager, là, ça a plus d'un tour dans son sac. Autrement dit, c'est une technologie qui peut servir à d'autres fins thérapeutiques. Ça, c'est très intéressant. Et dans ce contexte-là, ben, je veux vous parler d'une recherche qui se fait présentement, dirigée par l'équipe de recherche de Jonathan Spicer, le docteur Jonathan Spicer. C'est un chercheur au Centre universitaire de santé McGill. Puis, ben, ce qu'il fait, comme tu l'as mentionné, en fait, il a mis au point un vaccin à base d'ARN messager qui teste présentement sur des patients qui sont atteints de cancer du poumon. Le cancer du poumon, il faut savoir que c'est le cancer le plus prévalent au Canada, là. Autrement dit, c'est un cancer qui cause... En fait, c'est le cancer qui cause le plus de décès à chaque année. Et on estime que dans l'année qui va venir, il y a plus de 31 000 personnes qui vont malheureusement être diagnostiquées de ce type de cancer. Donc, c'est quand même un sujet très, très important dont il faut parler. Alors, si tu me permets, on va revenir sur l'ARN messager maintenant. Est-ce que l'idée elle sort comme ça d'un chapeau, là, comme un magicien? Mais pas du tout. Hein. Ce n'est pas une idée saugrenue de penser que l'ARN messager peut traiter le cancer, parce que grâce aux avancées qui ont été faites durant la pandémie sur l'ARN messager, bien, il y a entre autres des recherches qui ont été faites pour développer un vaccin anti-cancer qui a déjà démontré son efficacité sur le mélanome, donc un cancer de la peau. Donc, c'est déjà... une indication qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec l'ARN messager pour lutter contre les cancers.
Et il y a une nouvelle cohorte de patients, donc, qui est premier au Canada, qui teste l'efficacité du vaccin ARN en ce moment.
Absolument, exactement. Comme tu l'as dit, ce sont les premiers au Canada, probablement dans les premiers au monde même, qui testent ce type d'intervention-là. Alors, au départ, ce sont des patients qui ont déjà reçu le diagnostic là, de cancer du poumon au stade 2 ou stade 3 et qui ont subi une intervention chirurgicale pour retirer cette tumeur-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on enlève la tumeur, le cancer au niveau du poumon, il va malheureusement avoir des petits amas de cellules cancéreuses qui se seront détachées entre-temps de la tumeur dans le poumon, puis qui vont se retrouver à se promener un peu partout dans le corps. On appelle ça des micrométastases. Puis ça, ben, ces micrométastases-là, ben, ils vont aller se cacher un peu partout, parfois dans le cerveau, dans les os, dans d'autres parties du cerveau, dans d'autres parties du corps. Et ça, c'est comme des petits feux en dormance. C'est-à-dire que il s'agit qu'il y a une situation propice, là, puis ça y est, il pourrait y avoir récidive du cancer. Le cancer va à nouveau se redévelopper. Et ça, pour traiter ça, ben, il faut combiner généralement de la chimiothérapie à l'intervention chirurgicale. Il faut ajouter de l'immunothérapie pour détruire les micrométastases. Et là, ben, on va en venir à l'étude. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là? Ben, en fait, ils ont évidemment prélevé la tumeur. Quand je disais tantôt qu'ils l'ont, ils ont fait une chirurgie pour la retirer. Donc, ils prennent la tumeur, puis ils vont l'analyser en laboratoire. Puis ils vont tenter de remarquer quelles sont les particularités génétiques de ce cancer-là que la personne a. Et quelles sont les petites protéines qui sont propres à la forme du cancer que le patient a. Et quand on étudie ça, ben on est capable de faire donc des ARN messagers, des petites séquences très spécifiques qui vont pouvoir s'attaquer aux protéines là, qui sont propres à la tumeur. Donc, une fois qu'on a nos ARN messagers, ben on va les injecter au patient. Le patient, il va ensuite pouvoir fabriquer les petites protéines tumorales grâce à ces petits ARN-là. Puis ça va faire en sorte que le système immunitaire, ben, il va développer des anticorps pour lutter, ben, en fait, pour repérer ces protéines-là, puis les détruire, donc détruire les cellules cancéreuses. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec l'ARN messager dans ce cas-là. Et ce vaccin-là, là, on ne peut pas le donner tout seul. On le donne en combinaison avec l'immunothérapie, déjà les traitements qu'on offre aux patients. Ça, le but dans tout ça, c'est de faire en sorte de pouvoir activer le système immunitaire encore de manière encore plus efficace pour qu'il soit capable de reconnaître les cellules tumorales et les détruire. Alors, les chercheurs en ce moment, c'est ce qu'ils espèrent qui va se produire, puis ça va faire en sorte qu'on va peut-être éviter d'avoir ces petits feux-là en dormance qui vont se réactiver. Donc, on réduit les récidives du cancer, puis bien évidemment, on augmente la survie des patients en ce moment-là, tu vois.
Oui. Les résultats des essais cliniques, donc, ne sont pas encore connus pour le moment, mais ça s'annonce prometteur hein, pour les personnes qui auront malheureusement là, des mauvaises nouvelles prochains mois.
Exactement. Donc, on suit ça de près pour voir quels seront les résultats, mais ce qui est certain, c'est que c'est très encourageant. Ça donnera une autre stratégie pour lutter contre les cancers.
Et maintenant, on passe à un autre sujet, Philippe, la narcolepsie.
Exactement, la narcolepsie. Une maladie qui est généralement peu connue, mais si vous êtes des fins amateurs comme moi de la série américaine Les Simpsons, moi c'est quelque chose que j'écoutais beaucoup durant mon adolescence, là, ben les amateurs vont savoir que Homer Simpson, là, ben il souffrait de narcolepsie. Dès la première saison de l'émission, là, on apprend qu'Homer Simpson est atteint de cette maladie-là, puis si on a en tête l'image de justement Homer qui est assis devant sa console au travail, puis qui s'endort subitement devant son bureau de travail, et là, ça déclenche un incendie dans l'usine où il travaille. Donc ça, c'est l'image un peu cocasse de la maladie, mais pour de vrai, c'est pas jojo, cette maladie-là. C'est une maladie qui est très réelle, et on va en parler un peu. Alors, si tu me permets, la narcolepsie, je vais en parler un tout petit peu, c'est un trouble du sommeil. Un trouble du sommeil qui est caractérisé par des somnolences excessives durant le jour. Donc, ça peut, par exemple, être... La gravité peut varier. Là. Certains vont peut-être avoir une espèce de brouillard mental ou un peu un manque d'énergie à un moment donné durant le jour, mais pour d'autres, là, les conséquences peuvent être très dramatiques. Là. Ils peuvent carrément s'endormir. En plein jour, comme ça, assis à la table, là, dans une activité plus ou moins énergique, là, une activité plutôt monotone, mais pof, ils vont s'endormir, comme ça, bang!
Oui.
C'est pas super le fun, puis on peut imaginer que dans certaines situations, ça peut être même très dangereux là, pour ces personnes-là ou les autres qui sont autour d'eux. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Et aussi, cette somnolence-là, ben ça s'accompagne souvent d'une certaine faiblesse musculaire. On appelle ça des épisodes de cataplexie. Donc, les gens vont avoir un shutdown, excusez de l'expression, mais une diminution spontanée de leur tonus musculaire. Donc, c'est souvent ça qui vient avec. Il y a à peu près une personne sur 2000 en ce moment qui est atteinte de la narcolepsie, mais c'est un taux qui est probablement sous-estimé parce que je le rappelle, c'est une maladie qui n'est pas très, très, très connue du grand public. Fait que peut-être qu'en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mon Dieu, est-ce que je souffre de narcolepsie? Ben, en tout cas, faut pas tout de suite crier au loup, là. Faut aller consulter son médecin, mais c'est pour dire, là, il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui sont atteints de la maladie.
Oui, parce que les gens pourraient penser là, qu'ils sont simplement fatigués, qu'ils dorment mal, par exemple, et que ce n'est pas donc une maladie qu'on peut diagnostiquer.
Non, absolument. Ça peut prendre même des fois des. Ça peut prendre plusieurs mois avant d'être diagnostiqué pour cette maladie-là. Fait qu'il faut juste se dire, regarde, on ne se diagnostique pas nous-mêmes de la maladie, il faut consulter des professionnels de la santé, c'est certain. Pour terminer mon topo sur la narcolepsie, là, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui permet de guérir la maladie. On peut juste contrôler les symptômes, puis ça, ben, on le fait avec certains médicaments, des médicaments stimulants ou des antidépresseurs dans certains cas. Fait qu'on arrive à diminuer les effets de la narcolepsie, tout simplement. Et là, j'y arrive. On va parler maintenant de qu'est-ce qui est nouveau. Ben, les dernières années dans la recherche là, ont permis d'identifier que dans les cas de personnes qui souffrent de narcolepsie de type 1, il y a différents types, là, je ne vais pas rentrer là, mais disons que le type le plus courant, c'est la narcolepsie de type 1. Ben, dans ces cas-là, c'est causé par des neurones qui sont détruits, une destruction des neurones. Mais ces neurones-là vont normalement produire une substance qu'on appelle l'hypocrétine. Ça, c'est un neurotransmetteur, donc une molécule chimique qui permet de communiquer entre les neurones, par exemple dans le cerveau. Et ce neurotransmetteur-là, l'hypocrétine, ben, quand elle se lie à son récepteur sur la surface des neurones, ben, ça va permettre de garder, dans le fond, l'état d'éveil. Je le simplifie en ce moment. Là. C'est comme si on demeure en état éveillé. Alors, on devine une chose, hein, les personnes qui sont narcoleptiques de type 1, ben, ils ont une diminution, ils ont une perte de ce neurotransmetteur-là. Et puis, ben, ça veut dire que là, le sommeil s'invite dans les périodes d'éveil. C'est ça qui arrive là, durant le jour, paf, là, le sommeil veut se présenter, puis là, les gens tombent endormis, par exemple.
Oui.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des médicaments en ce moment qui ont été développés pour imiter la fonction de l'hypocrétine. Ça, ben, ils sont présentement à l'étude. Par exemple, je vais juste te donner un seul exemple. Donc, il y a un essai clinique de phase 2 qui porte sur des patients atteints de narcolepsie de type 1. Puis quand on leur donne cette molécule-là, qui imite l'hypocrétine, puis qu'on la donne pendant une période d'environ 8 semaines, ben, on observe déjà une amélioration sur les états de somnolence. Ils sont moins présents, moins intenses. Puis quand je parlais tantôt de cataplésie, là, les moments de faiblesse musculaire, ben il y en a un peu moins. Ils sont moins importants, moins présents, si tu veux. Puis ça, c'est comparativement à des gens qui ont reçu un placebo. Donc, oui. Des gens qui ont reçu, dans le fond, quelque chose qui n'est pas un médicament, tout simplement.
Oui, on donne un faux médicament, en fait, là, parce voilà, que le cerveau peut prendre un faux médicament puis donner des effets secondaires ou des améliorations parce qu'il pense qu'on lui a donné un médicament. Donc, pour être sûr qu'un médicament est efficace en lui-même, il faut être capable donc d'enlever cet effet-là, là, qu'on appelle l'effet placebo.
C'est exactement ça. On veut s'assurer que l'effet qu'on observe, c'est bel et bien le médicament, que ce n'est pas un autre effet qu'on ne connaît pas très bien, qui est mal compris. Alors, tu as bien résumé ça. Oui, on compare toujours avec un placebo pour être certain que ce qu'on observe, c'est véritablement le médicament qui donne les effets. Tout à fait.
Et on termine avec les jeux vidéo. Oui. Les jeux vidéo avec des outils de développement axés sur l'accessibilité.
Ben oui, exactement. Donc, en quelques minutes, dizaines de secondes, donc une société de jeux vidéo, EA Games, ont mis au point, ils ont déjà des jeux à leur actif, là, les Sims, Madden, puis le jeu FIFA, un jeu de soccer.
Oui.
Donc, ils ont investi pour développer donc des outils qui rendent les jeux plus inclusifs. Par exemple, ils ont mis en place des technologies pour améliorer la reconnaissance vocale, pour générer des paroles plus personnalisées, quelque chose qui pourrait donc venir en aide aux personnes qui ont des troubles de la parole, par exemple. Et ils ont aussi simplifié l'utilisation des technologies de reconnaissance vocale, une chose qui pourrait vraiment aider pour les personnes qui ont besoin d'assistance ou d'aide pour s'exprimer verbalement. Donc, c'est des choses qui pourraient leur aider. Voilà.
Oui, parce qu'on sait que la reconnaissance vocale, en fait, quand on a un défaut d'élocution, c'est vraiment pas facile parce que le robot ne nous reconnaît pas, là, a de la difficulté à nous comprendre. Même pour les gens qui ont une élocution parfaite, là, ça peut être difficile. Donc, il nous vient pour les autres. Donc, effectivement, on a 23 brevets qui sont centrés sur l'accessibilité qui ont été déposés. Oui. Donc, on voit vraiment un marché qui s'ouvre au niveau du développement qui sont axés sur l'accessibilité qu'on ne voyait pas il y a quelques années.
Absolument. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est ça. Donc, ça fait des belles nouvelles. Si tu me permets, je glisse rapidement un dernier point sur cette compagnie-là. Ils ont développé un module externe. On appelle ça un plugin dans le jargon. On l'appelle Iris. Ce module-là, il permet d'analyser dans les images du jeu vidéo s'il y a des problèmes de photosensibilité potentielle. Donc, le logiciel, il va tout de suite les détecter. Il va tout de suite informer le développeur de « Hey, attention, il y a quelque chose ici, ça peut amener un problème de photosensibilité. » Et là, le développeur, il peut corriger en temps réel le problème dans son jeu au fur et à mesure qu'il le développe. Donc, pour les personnes photosensibles ou les personnes qui souffrent d'épilepsie, là, ça peut être une super bonne avancée pour leur permettre de jouer à des jeux sans avoir les problématiques liées à la photosensibilité, ce qui est quand même parfois trop présent dans
oui,
les jeux où tout va vite, tout est en flash, etc. Fait que c'est une belle avancée. Puis ça, c'est offert gratuitement à l'ensemble de la communauté de développeurs. Fait que c'est des outils accessibles dans les deux sens. Accessibles pour les gens qui vont l'utiliser. Je parle des personnes qui ont besoin de pour lesquelles il faut tenir compte de la photosensibilité. Mais en plus, eux autres, ben, ils l'offrent gratuitement à la communauté. Donc ça, c'est un autre volet d'accessibilité. Rendre ça accessible à tous les autres développeurs. C'est une belle philosophie d'entreprise.
Oui, et plus on rend ça accessible, évidemment, plus les autres développeurs peuvent ajouter leurs idées oui. Et puis développer d'autres choses. Donc, voilà. Effectivement, c'est un bel esprit de solidarité et de communauté.
Absolument. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce volet-là. On pense à tout le monde, puis on s'aide. Ouais.
Merci beaucoup, Philippe.
Ça me fait plaisir, Isabelle. Puis à la prochaine.
À la prochaine. C'était Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique. On retrouve maintenant M. Jean Roy, qui est réalisateur de la série Nos champions paralympiques, qu'on aura le bonheur de voir sur MTI dans les prochaines semaines. Bonjour, M. Roy.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Donc, M. Roy, vous êtes intéressé aux champions paralympiques, donc aux athlètes paralympiques canadiens dans votre nouvelle série?
Oui, en fait, on a voulu vraiment les mettre en vedette et les suivre, surtout pendant vraiment un long processus jusqu'aux Jeux paralympiques de Paris. Donc, on a commencé à l'automne dernier, en 2023. On les a accompagnés pendant les Jeux parapanaméricains à Santiago, au Chili. On est allé les accompagner là-bas. Mais on en a suivi 13 athlètes pendant toute l'année, jusqu'à la fin des Jeux de Paris, les Jeux paralympiques.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre ces athlètes-là en lumière alors qu'on en parle moins, en fait, que les athlètes olympiques qui n'ont pas de différence?
Bien, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait montrer qu'ils sont des athlètes à part entière, pas des athlètes qui font de la participation. C'est-à-dire que c'est pas juste un sport juste pour le fun, c'est vraiment, ils dédient leur vie à ça. Ils sont carrément impliqués à 100% dans leur sport. Donc, c'était cet engagement-là qu'on voulait montrer, puis on voulait montrer à quel point ils travaillent fort, finalement.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a un traitement inégal entre les Olympiens et les Paralympiens?
Mais de moins en moins. Là, cette année, on a eu quand même des bourses sportives pour ceux qui ont eu des médailles. Donc, déjà, c'est une reconnaissance, là. C'est déjà bien. Et je pense que oui, effectivement, ils ont encore à gagner une place dans la société autant que les autres athlètes. Je pense que c'est moins reconnu encore.
Et qu'est-ce qui fait en sorte là, que pour vous que ce soit moins reconnu? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont moins, on connaît moins peut-être leur sport et qu'on a moins de visibilité au niveau de la télévision, entre autres des médias, lorsqu'ils sont en compétition?
Évidemment, c'est une des raisons. Écoutez, moi, mon travail, c'est justement de mettre en lumière des choses comme ça, de montrer des gens qu'on est moins habitué de voir. Je veux montrer aux autres ce que ces gens-là font.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant que vous étiez en train de filmer tout ça et puis de rencontrer les athlètes? Est-ce qu'il y a un moment ou quelque chose qui vous a vraiment sorti de votre zone de confort ou que vous n'attendiez pas?
Ah, écoutez, ça va. Moi, je suis un peu un généraliste qui devient spécialiste parce que mon métier de réalisateur, de scénariste, de producteur, c'est de m'intéresser à un sujet que je ne connais pas particulièrement. Mais dans mon travail, c'est d'apprendre les détails, de voir comment ça se passe, tout ça, de découvrir un univers puis de le révéler aux autres après. Et quand je suis rentré là-dedans, j'ai commencé, le premier tournage, c'était à Santiago. Je me rappellerai toujours, quand on voit une athlète paralympique qui vient de jouer une heure de basketball en fauteuil, qui traîne, qui part après le match, elle part en traînant son fauteuil de sport et ses autres éléments, puis elle doit monter une rampe, là, comme tu dis, mais voyons donc, c'est pas seulement des athlètes, là, c'est vraiment des gens qui ont une détermination très, très forte. Moi, ça m'a extrêmement touché, cette affaire-là. Ça a été un point de départ pour moi, puis j'ai voulu montrer ça tout le long de la série. Mais je les ai filmés autant dans toutes sortes d'activités. Je les ai filmés en entraînement, je les ai filmés en camp avec leur équipe, dans les sports d'équipe. Ils m'ont exprimé aussi leur histoire, ils m'ont raconté leur histoire, ils m'ont exprimé leur faiblesse, leur force aussi. Je les ai vus livrer le meilleur d'eux-mêmes. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série-là. C'est des gens attachants, la grande majorité. J'ai été touché, moi, tout au long de la série, tout au long de l'année que je les ai suivis.
Et on va pouvoir donc suivre dans 10 épisodes qui sont dès le lundi 13 janvier. Et puis, chaque épisode, donc, va se focaliser donc sur un athlète paralympique en particulier. Donc, on voit différents sports aussi. Hein.
Oui, en fait, c'est que dans chaque épisode, vous allez voir au moins 3 ou 4 athlètes. C'est une série chronologique, donc ça commence à l'automne 2023 et ça se termine tout de suite après les Jeux de 2024 à Paris. Donc, à travers cette année-là, c'est comme si l'année était divisée en 10 émissions. Dans chacune, vous allez voir au moins 3 athlètes. Alors, ce soir, dans l'émission, la première émission, on a Anthony Bouchard qui court le 100 mètres. On a William Roussy, qui est un jeune qui joue au badminton. Et on a Élodie Tessier, qui vit au Texas et qui, parce qu'elle étudie là-bas et qu'elle joue dans une équipe de basketball fauteuil. Donc, ces trois-là sont en vedette dans la première émission. Mais dans la deuxième émission, on va avoir Patrick Dagenet au rugby, on va avoir Alison Levine en Wachia, etc., etc. Donc, et ils reviennent. Donc, tous ces athlètes-là, on va les revoir à peu près 3-4 fois dans la série. On va voir parmi ces histoires-là, il y en a un qui va apprendre qu'il s'est fait prendre pour dopage.
Oh, quand même, hein?
Oui. Et puis, son rêve paralympique disparaît, là. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça qui vont arriver. C'est leur vie, dans le fond. Ils travaillent très fort, mais des fois, il y a des pertes.
Oui, c'est pris sur le vif. Et des fois, bon, on voudrait évidemment avoir des victoires, mais des fois, la caméra n'a pas d'autre choix que de filmer une défaite.
Exactement, oui. Et les difficultés, par exemple, l'équipe de basketball, ben, ils ont changé 3 fois de coach pendant l'année. Alors, ça a été une grande difficulté pour eux. Malgré tout, ils ont bien performé au jeu à Paris. Mais on va voir ça, on va bien comprendre les rouages de ça dans la série.
Puis la réalité émotif de ces gens-là qui vivent aussi leur vie de tous les jours au travers ça, donc leurs émotions et puis la conciliation travail-famille, la conciliation travail-études. Là.
Exactement, il y a tout ça. Il y a aussi leur avenir. Ils pensent, certains sont plus âgés, ils pensent à leur retraite. Pour eux, c'est aussi une question monétaire. Hein?
Oui, effectivement.
Ils sont payés. Alors, à un moment donné, prendre la retraite, ben, tu peux avoir une baisse de salaire, de revenus, il faut trouver autre chose. Il y a tous ces questionnements-là qui traversent la série, en fait. Mais on focalise. Et ce qui est intéressant, je crois, moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi, oui, parler avec les athlètes, oui, les suivre, mais aussi les voir en action. C'est une série où il y a toujours du visuel intéressant parce que on les voit pratiquer, il y a toujours de l'action. Donc,
Oui, on les voit aussi en compétition. Là. J'ai eu la chance de visionner les deux premiers épisodes et effectivement, on les voit dans des compétitions majeures quand même. Là.
Oui, tout à fait. On voit les compétitions et puis on est en coulisses avec eux tout de suite après. Par exemple, à Santiago, là, après une défaite crève-cœur, ben moi, je les ai interviewés tout de suite. Là. Tu sais, on a l'émotion du moment. Là.
Donc, c'est super intéressant là, de voir cet aspect-là qu'on voit peut-être moins, hein, très axé sur les athlètes, sur les humains derrière ça, mais aussi sur, bien évidemment, leurs défis, leurs enjeux, parce que ce sont aussi des personnes en situation de handicap. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux au niveau de l'accessibilité, entre autres, vous l'avez dit, des enjeux financiers. Dites-moi, d'ailleurs, quelles avancées il nous reste à faire au Québec, au Canada, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, selon vous?
C'est énorme. Ces gens-là peuvent parfois même pas aller à un endroit encore. Là. On est en 2024. On n'est pas non plus en Afrique. On est au Québec.
Là. Oui, oui.
Tu sais, c'est fou, là. Moi, j'en suis pas revenu. Des choses comme ça. C'est niaiseux, mais on est encore là. Et j'ai entendu aussi des commentaires comme quoi c'était pas tout à fait des athlètes. Tu sais, bon.
Alors qu'ils passent leur semaine à s'entraîner.
Ben oui.
Littéralement.
Tout à fait. Oui. Ah, puis ils dépassent des... Bon, tu sais, il y a les paraplégiques, les quadriplégiques, ceux qui ont eu un accident dans leur vie, qui ont la moitié de leurs membres qui ne fonctionnent plus, mais qui réussissent quand même à s'élever assez haut dans leur sport pour se rendre aux Jeux paralympiques, participer, être parmi les meilleurs au monde. C'est quand même fou, ça.
Oui, oui, pour se relever d'un accident qui est tragique et puis être capable de faire mieux et de devenir un athlète paralympique au niveau des équipes canadiennes, là, c'est quand même quelque chose de fabuleux.
Oui, tout à fait. Et à travers ça, ben, on va voir, je pense aussi à d'autres athlètes comme Mélanie Labelle, par exemple, qui est une joueuse de rugby, qui est la seule femme sur l'équipe nationale canadienne, mais qui n'a pas fait les Jeux paralympiques parce qu'il y a un nombre X de joueurs, puis à chaque compétition, le personnel d'entraîneur choisit les meilleures personnes pour aller compétitionner. Et Mélanie n'était pas là aux Jeux paralympiques comme athlète. C'est difficile pour eux. Après ça, elle va continuer à s'entraîner pareil. Elle va continuer malgré tout. Mais il y a des moments comme ça plus difficiles. Ça, c'est aussi touchant. Puis il y a aussi William. Je parlais de William aussi tantôt. Le jeune.
Malheureusement, il faut vous couper, Jean-Roy. Ah. On a terminé, donc. Mais merci beaucoup. On voit ça à partir de ce soir sur MTE à 20h. Nos champions paralympiques, c'était Jean-Roy, le réalisateur. On va écouter ça avec beaucoup de plaisir. Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Sans détour.
On est maintenant avec Anne-Louise Fournier, qui est coordonnatrice à l'accueil et au soutien spécialisé en situation de handicap au Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Bonjour, Mme Fournier.
Bonjour.
Mme Fournier, donc, votre travail en tant que coordonnatrice, là, c'est d'offrir un service aux personnes en situation de handicap qui étudient à l'Université Laval.
Oui, en effet, on offre plusieurs services pour permettre aux étudiants en situation de handicap de pouvoir venir étudier à l'université, en essayant de travailler sur l'abolition d'obstacles qu'ils pourraient rencontrer, qui sont en lien avec leur situation de handicap.
Et qu'est-ce qui distingue les services de l'Université Laval?
Ben, je vous dirais qu'on vient de fêter cette année notre 25e anniversaire d'existence. Alors, on n'est pas la seule université à offrir ces services-là. Là, c'est dans toutes les universités du Québec, bien sûr. Mais là, on arrive avec un parcours qui nous permet de croire qu'on a développé une expertise qui nous aide de mieux en mieux à soutenir les étudiants et à les aider dans leur parcours aux études. Alors, à travers les années, on en a vu beaucoup, beaucoup d'étudiants en situation de handicap avec des besoins très diversifiés, qui se sont inscrits dans à peu près tous les programmes et facultés qu'on a à l'université. Fait que l'expertise, je vous dirais tranquillement, là, qui s'est développée avec le temps.
Et combien on a d'employés à l'Université Laval qui travaillent au service d'aide aux personnes en situation de handicap?
On a la chance d'avoir une grosse équipe à l'Université Laval. On est 10 conseillers, conseillères spécialisés en situation de handicap. Alors, avec, évidemment, il y a longtemps, on était moins, là, mais le nombre d'étudiants augmente un petit peu à chaque année. Et on est rendu maintenant, mes dernières statistiques, c'était 4350 étudiants qui étaient inscrits à nos services. Alors, à mesure qu'on a eu plus d'étudiants qui sont arrivés, on a embauché plus de conseillers pour soutenir ces étudiants-là et là, faire les évaluations de besoins pour chacun et devenir une personne ressource tout au long de leurs études. Alors, s'il y a quelque chose, ils retournent vers la même personne conseillère spécialisée en situation de handicap. Puis, il faut dire aussi, peut-être que je peux me permettre de dire, on travaille, oui, à accueillir les étudiants, mais on travaille aussi beaucoup avec le personnel enseignant, les professeurs, puis le personnel administratif, pour voir avec eux aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur enseignement ou l'accès au matériel de cours à différents niveaux, comment ils peuvent eux aussi contribuer à faire en sorte que les étudiants en situation de handicap puissent bien suivre leurs cours pour pouvoir faire leur cheminement scolaire.
Oui, et il y a une nouvelle réalité des néo-handicaps, là, de ce qu'on appelle les néo-handicaps. Donc, voulez-vous nous parler de cette nouvelle réalité-là puis comment l'Université Laval s'adapte à cette nouvelle réalité?
Vous me parlez d'un terme qui n'est pas familier pour nous, néo-handicap. On n'utilise pas ça, nous autres. Je ne sais pas à qui vous référez quand vous parlez de néo-handicap.
Ben, on parle de néo-handicap, en fait, quand on parle, par exemple, de trop anxieux. Et de problèmes au niveau là, plus de la santé psychologique, mentale, là, qui avant n'étaient pas reconnus comme des handicaps. Donc, les personnes dans cette situation-là n'avaient pas droit à des services particuliers. Maintenant, c'est le cas là, dans la plupart des universités.
Effectivement, il y a 25 ans, on n'avait que des étudiants qu'on va appeler un peu plus classiques, là, qui avaient soit une déficience auditive, organique, motrice ou visuelle. On n'avait aucun autre type de demande, mais avec les années, puis je voudrais surtout là, autour de 2008-2010, on a commencé à recevoir des étudiants qui sont dans la catégorie de troubles. Troubles d'apprentissage, troubles déficitaires de l'attention, troubles du spectre de l'autisme, troubles de santé mentale, troubles de langage et de la parole, puis on a aussi troubles de traumatisme crânien. Fait que ça, c'est notre nouveau groupe qui ont été longtemps appelés comme étant la clientèle émergente dans nos services. Ce n'est plus le cas. Là. Ils sont avec nous depuis au moins 15 ans. Fait qu'on a ce nouveau groupe qui prend d'ailleurs beaucoup de place. Ils sont très, très nombreux là, dans le groupe des étudiants en situation de handicap. Ils sont plus nombreux que ceux qui avaient historiquement une déficience là, auditive, organique, etc. Alors, on offre des services pour eux aussi, bien sûr. Alors, c'est la même chose. Ils sont accueillis par les conseillers et selon le programme dans lequel ils sont inscrits, selon leurs difficultés, leurs forces, on va voir là, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour les soutenir pendant leurs études, alors que ce soit certains services. On a certains étudiants qui ont recours à des tuteurs méthodologiques pour bien organiser leur travail d'une session à l'autre. On en a qui ont des mesures d'accommodement, que ce soit aux examens ou pendant les cours ou pendant les stages. Alors, selon chacun, il y a une panoplie de possibilités, mais on va y aller avec les besoins spécifiques à chacun.
Et vous dites que vous êtes donc depuis une vingtaine d'années là, des pionniers dans ce type de service-là. Qu'est-ce qui a changé dans la façon d'accueillir et d'accompagner les étudiants au fil des années?
Ben, je vous dirais une meilleure connaissance des problématiques. Tout le groupe que vous appelez là, des troubles, il y a quelques années, on connaissait pas ça. Maintenant, on connaît beaucoup mieux. À l'université, mais aussi au niveau primaire, secondaire, collégial. Donc, ce sont des réalités, des difficultés que les étudiants ont, qui sont pas juste des difficultés, là, qui sont vraiment des situations de handicap, qui sont maintenant mieux comprises, mieux prises en compte, et ce, dès le début des études pour la grande majorité. Donc, quand ils arrivent à l'université, pour nous, c'est plus facile, on comprend beaucoup mieux qu'il y a 25 ans, les premiers qui sont arrivés avec une dyslexie, on se demandait, là, on a été obligé de travailler fort pour voir qu'est-ce qu'on allait faire et qu'est-ce qui, bien démêler difficulté scolaire versus situation d'handicap, qui n'est pas la même chose du tout, parce qu'on a aussi dans les étudiants, beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage ou difficultés d'adaptation. Ça, on a des services pour l'ensemble des étudiants qui ont des besoins au centre d'aide aux étudiants. Mais pour ceux qui ont vraiment une situation d'handicap, ben là, on parle plus d'étudiants qui sont avec un diagnostic précis, des limitations plus précises. Alors ça, on les connaît beaucoup mieux depuis le temps et on a des mesures plus adaptées. Puis ce qui a changé, je me permettrais de dire, c'est aussi la technologie qui a beaucoup, beaucoup évolué. Alors il y a 20 ans, on n'avait pas les logiciels qu'on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui, elle aussi, commence à nous offrir des outils qui sont vraiment intéressants et plus accessibles pour l'ensemble des étudiants, là, qui sont moins un accommodement particulier. Fait que ça, c'est très intéressant aussi de voir l'évolution de ce côté-là.
Effectivement, ça donne beaucoup plus d'aide aux étudiants et beaucoup plus de ressources, souvent des ressources gratuites, donc, qui vont les aider dans leur parcours, puis qui vont rendre le quotidien beaucoup plus facile, là. Qu'on faisait à l'époque, là. Entre autres, je pense au logiciel de lecture de texte qui peuvent prendre un livre, un papier et être capable de lire dessus. Alors ouais. Qu'à l'époque, c'était pas faisable. C'était vraiment une personne physique qui devait faire la lecture. Évidemment, c'était beaucoup plus difficile de le faire le soir, la fin de semaine, tout ça, là, c'était beaucoup plus difficile à s'adapter à ce moment. Et vous le dites, hein, c'est des technologies qui sont accessibles pour tout le monde. Donc, effectivement, des gens qui n'ont pas d'handicap, mais qui peuvent quand même bénéficier de ce type de technologie-là pour rendre leurs études le plus facile.
En effet, c'est des outils qui sont là pour tout le monde. La particularité, c'est peut-être juste aux examens ou quand on a réellement une situation d'handicap, on a dans certains cas droit à ces outils-là, ce que d'autres étudiants n'ont pas. Mais pour réaliser ses études, pour faire ses lectures, ses travaux, bien, c'est vraiment intéressant de voir l'avancement qu'il y a en informatique, en logiciel, puis surtout avec l'intelligence artificielle là, dans les dernières années. Ça amène vraiment un plus. On en est même, mais on cherche beaucoup. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'offrir des mesures qui permettraient aux étudiants en situation de handicap d'avoir moins besoin de venir chercher une aide individuelle. Si d'emblée, on arrive à diminuer les obstacles, puis c'est là-dessus qu'on travaille le plus, ben ça fait moins de démarches à faire pour eux. Alors ça, c'est vraiment notre optique, notre orientation. Puis à cet égard-là, je vous dirais, par exemple, on est sur un projet à l'Université Laval où on cherche, avec les nouveaux développements d'intelligence artificielle, d'avoir du sous-titrage automatique pour les cours à distance asynchrone. Alors ça, ce serait un sous-titrage qu'on pourrait offrir à toute la classe. Ils auraient le choix de l'activer ou pas. Mais pour plusieurs étudiants en situation de handicap, que ce soit pour une problématique auditive ou un trouble d'apprentissage, ben le sous-titrage devient un outil supplémentaire qui serait accessible pour eux comme pour les autres étudiants. Fait que ça, c'est très prometteur. C'est très intéressant de voir les développements qui se font là, dans les dernières années. Ça nous aide beaucoup à mieux les soutenir.
L'intelligence artificielle, donc, pour vous, ce que j'en comprends, c'est que c'est positif, là, alors que pour d'autres, c'est négatif ou on voit ça avec de la peur. De votre côté, là, vous voyez ça quand même positivement?
Ah oui, très positivement. Ça fait des années qu'on rêve de voir des sous-titrages partout. Et on travaille fort, mais d'après moi, d'ici peu, tous les cours à distance asynchrone, on va pouvoir l'offrir. Après ça, avec les développements qui se font, d'après moi, c'est juste une question de temps, quelques années encore, puis peut-être que les cours pourront être offerts avec du sous-titrage, tous les cours à distance, entre autres. Puis peut-être qu'éventuellement, on aura des écrans, puis le sous-titrage apparaîtra même dans les cours en classe, on ne sait pas. Alors ça devient des outils qui sont le fun pour les étudiants en situation de handicap, mais on a toutes sortes d'autres groupes d'étudiants, les étudiants parents qui peuvent être absents ou un étudiant qui n'a pas de particularité, mais qui est malade, ben ce serait des outils qui serviraient à tout le monde. Alors ça, moi, je trouve que c'est très excitant de voir les développements puis les possibilités qui deviennent de plus en plus concrètes, là, qu'on va pouvoir utiliser, et ce, sans avoir des coûts très élevés là, pour aller chercher ces technologies-là.
Oui, c'est aussi une question de coût, là, vous l'avez dit. Donc, le fait que ça se démocratise, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ces technologies-là sans avoir des coûts, parce qu'évidemment, l'université a des budgets, mais peut avoir des budgets quand même limités. Donc, ça permet d'avoir des choses à moindre coût qu'on n'avait pas avant.
Exactement, exactement. On est, ne serait-ce que l'exemple le plus banal, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait juste certains étudiants en situation de handicap qui avaient un ordinateur pour faire leurs études, alors qu'aujourd'hui, tous les étudiants qui rentrent à l'université ont besoin d'un ordinateur. Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant et c'est un outil pour tout le monde. Fait que c'est vraiment plus intéressant et plus universel. Pour tous les étudiants, ils se sentent moins différents des autres étudiants quand on a des outils similaires à tout le reste de la classe.
C'est vrai qu'au niveau de l'intégration, ça aide de se sentir un peu comme tout le monde, en fait, et d'avoir moins de besoins particuliers. Donc, on se sent plus inclus dans la vie universitaire, là, particulièrement quand on est jeune. C'est quelque chose qui peut être un petit peu sensible.
Oh oui, c'est super important. On veut être comme tout le monde. Les étudiants en situation de handicap, ils voudraient ne pas avoir de particularité et pas de besoins particuliers. C'est ce qu'ils aimeraient le plus. Alors, par exemple, pour certains examens, ils vont devoir aller dans un local à part pour pouvoir avoir du temps supplémentaire parce que les cours, une fois qu'ils sont terminés, il y a un autre cours qui commence tout de suite dans le même local. Donc, pour certains examens, ça doit être fait dans d'autres locaux. Les étudiants rêvent de rester dans la classe et de faire en même temps que tout le monde. Fait que plus on arrive avec des outils universels qui répondent à leurs besoins à eux, mais qui souvent répondent à d'autres besoins pour d'autres étudiants, ben c'est dans la bonne voie là, pour une inclusion, une accessibilité pour tous le plus possible.
Merci beaucoup, Madame Fournier, coordonnatrice à l'accueil et au soutien spécialisé en situation de handicap au Centre d'aide aux études de l'Université Laval. Je vous souhaite une bonne session.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. On est de retour à Sans détour et maintenant, je vais vous faire une petite revue de presse. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la situation de handicap, ce qui est sorti dans les journaux. Donc, on commence avec des progrès médicaux pour 2025. Donc, il y a des patients paraplégiques qui remarchent grâce à la stimulation cérébrale. Il y a aussi des vaccins anti-cancer qui pourraient naître en 2025, comme nous en parlait Philippe Ducharme. Donc, la stimulation cérébrale pour les personnes qui sont paraplégiques. Il y a des chercheurs suisses qui sont parvenus à restaurer la mobilité chez des personnes paraplégiques grâce à la stimulation cérébrale profonde qui est l'implantation d'électrodes dans l'hypothalamus latéral, donc dans le cerveau, qui cette région est associée à l'éveil et à l'alimentation, mais a aussi des neurones qui contribuent à la récupération de la marche après une lésion de la moelle épinière. Donc, le fait d'être capable de stimuler cette région pourrait aider des personnes qui sont paraplégiques à remarcher. En 2025, il va y avoir plusieurs études par rapport à ce qu'on pourrait faire avec la stimulation cérébrale profonde. Ça nous vient donc de la revue Nature Médecine en décembre 2024 qui ont publié donc des résultats prometteurs qui vont être à suivre en 2025. Il y a aussi donc la thérapie génique, qui est une thérapie qui ouvre une nouvelle ère dans le traitement des maladies rares, entre autres pour réparer ou remplacer un gène défectueux. Oh, évidemment, il y a plusieurs maladies génétiques qui sont causées par le fait qu'on a un gène qui ne fonctionne pas bien. Et donc, on pourrait, avec ce type de thérapie, être capable de changer ou de réparer, si vous voulez, un gène qui cause problème. On a donc aujourd'hui plus de 4000 maladies génétiques pour lesquelles un gène a été identifié comme étant défectueux ou comme étant problématique. Donc, à ce moment-là, on est capable, évidemment, d'avoir plus de maladies génétiques qui sont trouvées et on est capable, éventuellement, d'identifier un bon gène et avec la thérapie génique, on espère être capable de rendre ce gène-là plus fonctionnel. Donc, on a aussi, évidemment, des vaccins anti-cancer. On en a parlé un peu avec Philippe tout à l'heure. Donc, pour le cancer du poumon, entre autres, qui pourrait nous aider les personnes qui sont en situation, donc, qui ont reçu un diagnostic d'un cancer, avoir des traitements qui sont plus efficaces. Il y a aussi, dans la même lignée, on part de la médecine pour aller vers des gadgets qui vont nous aider à vieillir plus sereinement. Entre autres, on a un chien robot autonome hyper réalistique qui est de la compagnie Tombot, qui est destiné notamment aux personnes âgées, qui est présenté lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui a lieu le 5 janvier dernier. Donc, c'est un événement à Las Vegas où on présente les nouveaux gadgets technologiques qui sont en développement ou qui ont été développés pour aider à l'autonomie de différentes personnes, entre autres pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Donc, les robots de compagnie qui imitent un chien apaisent les personnes atteintes d'Alzheimer. Et ils peuvent aider aussi à calmer les crises, à réduire donc les moments d'anxiété et donc à réduire également les symptômes de ces personnes-là parce qu'on sait hein, que lorsque les personnes sont anxieuses, les symptômes sont d'autant plus visibles et on dégénère plus rapidement lorsqu'on est anxieux. Donc, le marché américain pour les personnes âgées devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2030. Donc, comme on le disait avec Philippe, il y a vraiment un nouveau marché qui s'ouvre, hein, entre autres pour les personnes âgées, étant donné que la population est vieillissante dans plusieurs pays, comme au Canada. Un autre secteur qui fait manchette, c'est au niveau des gadgets portant sur la santé. On parle aussi de l'accès aux soins. On a une entreprise qui a mis au point un appareil qui se fixe sur la cuvette des toilettes pour tester automatiquement l'urine d'une personne pour voir si elle a des infections dans les voies urinaires. On peut voir ça comme étant une avancée dans l'optique où les personnes peuvent être évidemment asymptomatiques et pourraient aussi avoir des difficultés à trouver un médecin ou à avoir une clinique qui est adaptée à leurs besoins particuliers, que ce soit donc au niveau de leur mobilité, au niveau de leur particularité de leur particularité donc, psychologique ou comportementale. Donc, ça aide évidemment à détecter un problème et puis éventuellement, on pourra envoyer ces gens-là vers de l'aide médicale, mais au moins ce sera détecté. Donc, ça peut paraître un peu saugrenu, mais ça montre à quel point on avance au niveau de la médecine et de la technologie et comment on peut... au quotidien, donc, améliorer la vie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. L'une des principales préoccupations, donc, des personnes âgées, c'est de trouver comment vieillir sereinement. On a des dispositifs, évidemment, d'alerte médicale, des tensiomètres, dis-je, des fauteuils roulants électriques. On le disait aussi, on a de plus en plus, donc, de robots d'intelligence artificielle qui vont créer donc une compagnie à ces gens-là avec lesquels ils vont pouvoir converser pour limiter les problèmes cognitifs qui sont liés au fait d'être isolé. Donc, c'est des choses qu'il va falloir vérifier en 2025. On s'en va maintenant au niveau de l'Ontario qui a adopté une loi en 2005 qui promettait que tous les bâtiments seraient accessibles le 1er janvier 2025. Et là, le 1er janvier 2025 est passé. Et coup de théâtre, les bâtiments ne sont pas accessibles en Ontario. Donc, on est très loin de la cible, selon le militant David Lepofsky. Malheureusement, donc, non seulement on n'a pas atteint la cible, mais on n'est pas prêt de l'atteindre non plus. Ça montre que le gouvernement ontarien n'a peut-être pas mis assez de ressources à cette priorité qui était de rendre tous les bâtiments accessibles. On parle entre autres que 57 de ces 70 stations de métro en Ontario sont en cours de travaux pour installer des ascenseurs, mais on parle quand même donc de 13 stations où les travaux ne sont pas commencés, entre autres. Donc, c'est une... un des endroits où l'accessibilité donc n'est pas atteinte malgré le fait qu'on avait donc mis en place une loi en 2005, il y a donc 20 ans, pour que ce soit accessible complètement en Ontario. Donc, c'est raté. On espère par contre que le fait de rater la cible va permettre à des gens de voir qu'il y a encore du travail à faire et qu'on va pouvoir investir plus de ressources pour rattraper le retard et éventuellement être capable effectivement de rendre l'Ontario complètement accessible. Ce type de loi, forcément, peut amener des gouvernements à avoir plus de ressources mises pour l'accessibilité universelle. Et finalement, on va terminer avec l'Alberta qui est investi dans les sports destinés aux personnes en situation de handicap. les ministres Albertin, Jason Nixon, aux personnes âgées, aux services communautaires et sociaux, et Joseph Shaw, au tourisme et au sport, annonce un investissement de 500 000 $ dans la AMP Legacy Foundation of Canada pour permettre aux élèves de troisième année, incluant ceux avec un handicap, de jouer au para-hockey dans un environnement complètement adapté et inclusif. Brad Yezé, qui est président et fondateur de MPD Legacy Foundation of Canada, et Chris Sederstein, directeur au sport adapté de l'organisation, se sont joints lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 7 janvier en Alberta pour un investissement de 500 000 $. C'est évidemment peu, mais c'est un pas en avant au niveau sports destinés aux personnes en situation de handicap. Et comme on en parlait avec le réalisateur Jean Roy tout à l'heure, c'est un exemple pour les personnes en situation de handicap de résilience et une façon de reprendre leur vie en main lorsqu'ils ont entre autres un accident, par exemple, ou un changement de leur vie. Donc, le parasport est toujours une voie pour garder ces gens-là en santé et, évidemment, pour se faire des amis et être actifs dans la société. Donc, on aime quand on a des investissements comme ça, comme celui qui a été annoncé en Alberta. C'est déjà tout pour nous. Merci à Mathieu Tessier. Et merci à Claire Guérin à la recherche et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine!